Bamako à Dakar et à Conakry, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Jean-Roger Billon. En direct Sahel Plus, bonsoir à tous, au sommaire de Sahel Plus. Donc, le Mali continue de travailler à la réconciliation de ses communautés, reportage d'une causerie de personnes âgées. Au Sénégal, la communauté guinéenne se sent de plus en plus stigmatisée.
Le travail, ça ne marche pas tellement. On est là seulement parce qu'on n'a pas où aller d'abord.
Reportage Djenaba Seydouba à suivre. Enfin, un rapport de l'UNICEF affirme que la crise économique mondiale de 2008 a eu beaucoup d'impact sur des millions d'enfants. Mais auparavant, le bulletin d'information. On commence par le Libéria. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a annoncé ce jeudi la levée de l'état d'urgence instauré en août pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Elle a toutefois prévenu que le combat n'était pas terminé. 10 des 15 comtés du Libéria n'ont signalé aucun nouveau cas depuis dimanche. Pendant ce temps, Médecins sans frontières va lancer des essais cliniques en Afrique de l'Ouest de 3 traitements de la fièvre Ebola. L'ONG espère commencer les essais le mois prochain et les premiers résultats devraient être disponibles dès le mois de février. Des manifestations ont eu lieu à Libreville au Gabon. Des affrontements ont éclaté entre la police et les protestataires qui tentaient de se rendre au palais de justice pour déposer une plainte sur l'acte de naissance du président Ali Bongo, accusé d'être nigérien adopté pendant la guerre du Biafra.
Au niveau du front de l'opposition, il était prévu aujourd'hui à 14h le dépôt d'une plainte contre le président Ali que l'opposition qualifie d'usurpateur. Au niveau du tribunal de Libreville. Donc dans la matinée, il y a des jeunes qui soutiennent le président Ali qui s'étaient amassés vers le tribunal, dans la route qui va au tribunal, alors que les autres n'étaient pas très loin de là. Il y a des policiers qui sont postés partout parce que dans la nuit, le ministère de l'Intérieur a fait un communiqué pour empêcher la marche de l'opposition, mais l'opposition a réagi en disant que nous marcherons.
C'était Dieudonné Minlama de l'Observatoire national de la démocratie au Gabon. Fin des plaidoiries à la Cour pénale internationale où se déroule le procès de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. La défense a demandé son acquittement pur et simple, estimant qu'il n'avait aucun contrôle sur ses miliciens accusés de viol, meurtre et pillage en République centrafricaine. C'était entre 2002 et 2003. La Russie continue de masser des troupes et des équipements dans l'est de l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui un porte-parole de l'armée ukrainienne. Kiev n'entend pas abandonner le cessez-le-feu conclu en septembre avec les séparatistes, a-t-il ajouté. Moscou assure toutefois qu'il fera tout pour empêcher une reprise des hostilités à grande échelle. Les frappes aériennes contre le groupe État islamique vont s'intensifier à l'avenir, tandis que les forces irakiennes au sol cherchent à devenir plus efficaces. Déclaration du secrétaire général, du secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, aujourd'hui devant une commission du Congrès. Hagel, qui déposait en compagnie du chef d'état-major interim, Martin Dempsey, a fait état de progrès face au djihadisme, mais il prévient que les Américains devraient se préparer pour une lutte longue et difficile. Après les récents affrontements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, les efforts diplomatiques se multiplient en vue de calmer la tension entre Israéliens et Palestiniens. C'est dans ce contexte que se situent les discussions du secrétaire d'État John Kerry ce jeudi avec les dirigeants israéliens et jordaniens. Il s'est entretenu auparavant avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Le président Barack Obama poursuit sa visite au Myanmar où il a évoqué la perspective d'un jour nouveau pour le pays, mais il faut faire davantage dans le cadre de la transition démocratique, a rappelé M. Obama. Il a rencontré les législateurs birmans aujourd'hui en présence du leader de l'opposition Aung San Suu Kyi qui aura un tête-à-tête demain avec le chef de l'exécutif américain. Les deux chambres du Congrès américain ont annoncé un vote sur un projet très controversé, la construction du Keystone Pipeline, un gazoduc reliant le Canada aux États-Unis. Un vote tout à fait politisé puisqu'il a été proposé à la Chambre basse par Bill Cassidy et au Sénat par Marie Landrieu, les deux adversaires au second tour des sénatoriales en Louisiane. Les députés votent aujourd'hui tandis que le vote du Sénat est prévu mardi. Vous écoutez la voix de l'Amérique, gardez vos sièges, dans un instant je vous rejoins, mais dans Sahel Plus. Et retour à Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par le Mali qui continue d'essayer de travailler sur la réconciliation des différentes communautés. Ainsi, les vertus du pardon et de la réconciliation étaient au centre d'une causerie animée par des personnes âgées, des débats pendant lesquels chacun essaye de trouver les meilleurs moyens pour mettre en œuvre une véritable réconciliation et s'assurer ainsi d'une paix durable. La causerie a été une occasion de revisiter les différentes ethnies du Mali, la vie des communautés dans les régions du pays, mais surtout la crise que connaît le Mali dans sa partie septentrionale. Reportage, notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
D'entrée de jeu, le principal animateur de la causerie, Dr Mamadou Fanta Simaga, fera savoir qu'il y a 16 grandes ethnies au Mali, parmi lesquelles les Maures, les Arabes et les Touaregs. Il ajoutera qu'il y a un traité de solidarité et de paix entre les différentes ethnies du Mali. C'est pourquoi le Conseil national des personnes âgées du Mali a organisé cette rencontre. Elle a pour but de trouver des solutions à la crise que connaît le Mali. Mamadou Koroba Traoré, président du Conseil national des personnes âgées du Mali.
Le vrai sens du mot, vraiment, on a perdu notre noblesse au Mali. C'est pourquoi on a choisi ce thème-là. Nous voulons vraiment qu'on trouve une bonne solution pour la gestion du Mali. Or, ça ne peut pas partir sans la bonne éducation. Au sein de la famille, au sein quand même de pouvoir.
Les différents intervenants ont axé leurs interventions sur la citoyenneté, l'éducation familiale et la bonne organisation de la société malienne. Ismaïla Konaté, membre du Conseil des personnes âgées du Mali.
Faire en sorte que les enfants soient des citoyens de demain à part entière. Il faudrait qu'on soit des patriotes, n'est-ce pas, dans ce pays pour que nous soyons tous debout comme un seul homme face à l'adversité.
Pour le conférencier, au-delà du recours à la médiation traditionnelle, les Maliens ne doivent pas occulter les quatre grandes qualités enseignées dans les temps. Se connaître pour mieux connaître les autres, s'accepter, avoir confiance en soi et s'estimer. Docteur Mamadou Fanta Simaga.
La reconnaissance, il faut que le peuple malien se reconnaisse. On a toujours vécu ensemble, in solido. Donc il faut maintenant créer entre nous, revivifier la solidarité. Il n'y a pas d'État sans solidarité. L'État maintenant que le Nord et le Sud soient solidaires.
Les parrains de la 20e édition du mois de la solidarité et des personnes âgées dira qu'il y a trois grands regroupements qui sont à la base de la rébellion que connaît le Mali, avant d'ajouter que la mauvaise gouvernance est le fond de cette crise malienne. Mamari Moussa Bala Koulibaly.
Toutes les rébellions qu'on a eues dans ce Mali-là, c'est lié à trois groupements. Les Ifoga de Kidal, les Kelantassar là, et puis les Arabes d'Arawan de Taoudéli. Ce qu'on oublie de dire, tous les États qui se sont succédés sur cette aire géographique-là ont été des États guerriers. Nous nous sommes dénaturés, c'est ça la vérité. Et le gouvernement ne veut pas dire aux Maliens qu'ils sont en guerre. Et quand on est en guerre, on se comporte d'une manière donnée.
Les participants à la causerie des personnes âgées ont recommandé la tolérance et la bonne foi, deux valeurs cardinales de la société malienne. L'implication des maîtres de la parole que sont les griots, la cohésion, l'interdépendance sont autant de passages pour y revenir au consensus. Mais avant, les Maliens doivent se mettre autour d'une même table pour montrer l'union qui est possible. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur La Voix de l'Amérique, 102.fm à Bamako. Et nous sommes au Sénégal pour notre dossier. À Dakar, la communauté guinéenne est nombreuse. Ils sont près de 3 millions de Guinéens dans la capitale sénégalaise et travaillent généralement dans les petits commerces, que ce soit les marchés de fruits et de légumes, les cartes de recharge téléphonique ou dans les petites épiceries bazar. Beaucoup de Guinéens se disent stigmatisés et déçus de cette intégration en demi-teinte. Reportage à Dakar, Djenaba Seydouba.
Rue Sandinieri, nous sommes en centre-ville de Dakar.
Il y a certaines choses comme...
Ici, c'est le fief commercial de la communauté guinéenne. C'est sur cette rue que les fruits vendus dans toute la capitale sont stockés. Il n'y a que des Guinéens qui évoluent dans ce secteur. Difficile pour nous de rencontrer un interlocuteur qui parle correctement le français. La majorité s'exprime en poular, sousou, mandingue ou wolof.
Abou
Bakri Diallo explique son travail.
Il y a beaucoup de choses venues chez nous. On ne venait pas ici en ce moment. Comme le miel, comme les bananes locaux, comme les mangues, comme les avocats, comme les ignames, comme...
Un autre Diallo, Boubacar, est un porteur de bagages, communément appelé ici pousse-pousse. Son intégration a été facile, mais difficile pour lui de trouver un travail qui rémunère bien.
Ça dépend. Hein. Je peux dire oui, ça a été facile pour moi. Mais seulement dans le travail, ça ne marche pas tellement. On est là seulement parce qu'on n'a pas où aller d'abord. Parfois, les boulots qu'on fait, on n'est pas payé à 100%. Deuxièmement, on travaille. Deux fois, on ne travaille pas aussi. C'est comme ça. Parce que là où on travaille, là, et l'État nous a levé là-bas. Donc, on n'a pas saisi. On avait notre table sur la route, mais ils ont enlevé. On cherche l'endroit là où rester. L'État nous a montré quelque part, mais pour aller là-bas, ce n'est pas facile encore.
Sous un autre registre, dans une autre partie de la ville, Oumouba est une étudiante d'origine guinéenne. Elle habite Sacré-Cœur 3. De temps à autre, cette jeune fille de 22 ans se sent stigmatisée.
Les Russes, ils n'ont qu'à considérer les Guinéens comme des immigrants, c'est tout. Ils sont venus faire leur travail, chercher de quoi amener au pays. Je trouve ça normal, mais bon. C'est difficile quand même, c'est difficile.
Et pourtant, certains Dakarois rencontrés magnifient la présence de la communauté guinéenne. C'est une communauté travailleuse de l'avis de M. Marouna.
La communauté guinéenne, c'est une communauté quand même qui s'est imposée en quelques années déjà. Et je comprends déjà les acteurs dans lesquels cette communauté évolue. C'est le commerce. Je pense que puisque leur pays n'a pas assez de ressources ou bien ils ne peuvent pas avoir beaucoup ils ne peuvent pas avoir de travail là-bas, je pense qu'ils sont obligés de venir au Sénégal. Parce que là, quand même, nous sommes un pays stable, où quand même il n'y a pas de problème, il n'y a pas de l'insécurité. Je pense que c'est un pays qui peut te permettre, par exemple, d'exercer un peu tes activités de commerce surtout. Et je pense que qui connaît les Guinéens sait que déjà c'est une communauté qui aime faire le commerce. Et ce n'est pas pour rien que cette communauté a choisi le Sénégal pour exercer ses activités. Et ça devait quand même servir de leçon pour même ces Sénégalais-là qui les voient travailler. Et très souvent, vous ne les voyez pas entrer dans des détails, par exemple, des agressions, entre autres. C'est des travailleurs.
Ils ont monopolisé les petits métiers.
Oui, c'est eux parce qu'eux, ils ne croient qu'au travail. Et je pense que quand ils quittent leur Guinée, leur pays pour venir ici, c'est pour travailler. Et vous ne les voyez pas très souvent faire du gaspillage. Ce sont des gens qui savent économiser. Et une fois retournés à leur pays, vous voyez aussi, ce sont des gens qui sont devenus un peu des millionnaires, hein, des riches, les nouveaux riches. Et tout ça, ils ont eu ça au parti du Sénégal. Et cette façon d'aimer un peu le travail devait servir de leçon aux Sénégalais. Parce qu'il faut reconnaître que les Sénégalais ne travaillent pas.
Selon des informations de l'ambassade de Conakry à Dakar, les Guinéens établis à Dakar sont estimés à près de 3 millions. Les Guinéens de Dakar évoluent pour la plupart du temps dans le secteur informel. Diana Basseidouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, nous terminons l'émission par un gros plan sur un rapport de l'UNICEF qui affirme que la crise économique mondiale de 2008 a eu un impact dévastateur sur des millions d'enfants. Plus d'explications avec Nathalie Barge.
23 pays riches sur 41 ont manqué à leur devoir de rendre la vie meilleure et non pas pire aux enfants, indique l'UNICEF. Le rapport de l'agence onusienne montre que 2 600 000 enfants ont sombré sous le seuil de pauvreté entre 2008 et 2012, portant à environ 76 500 000 le nombre total d'enfants pauvres dans le monde développé. Les pays les plus affectés sont la Grèce et l'Islande, qui ont été durement touchés par la crise financière mondiale. L'Islande en particulier a connu une augmentation spectaculaire de 20%. De manière générale, la pauvreté des enfants a augmenté de façon significative dans le sud de l'Europe, ainsi qu'en Croatie et dans les trois États baltes. L'experte en politique sociale et économique de l'UNICEF, Yekaterina Szend, précise toutefois que certains pays ont réussi à améliorer le bien-être des enfants au cours de cette période de récession.
We have Chile at the top. Child poverty there actually decreased.
Nous avons le Chili en tête, où la pauvreté des enfants a sensiblement diminué à près de 9%. Ce qui est frappant d'ailleurs est que dans les 15 premiers pays, la pauvreté des enfants a diminué précisément au cours de cette période de troubles économiques intenses. C'est on ne peut plus remarquable. L'on peut également citer parmi les pays ayant progressé la Pologne, l'Australie, la Slovaquie, la Suisse, la Norvège et la Corée du Sud. l'UNICEF attribue ce succès à la force des politiques de protection sociale, affirmant que les pays qui ont maintenu leur système de sécurité sociale ont permis d'éviter à de nombreuses familles de sombrer dans la pauvreté. Quant au cas de régression, le plus frappant est probablement celui des États-Unis, où l'extrême pauvreté des enfants a été plus prononcée durant cette récession que celle des années 80, souligne l'économiste.
This time, it's children in families where the parents are not working.
Cette fois, ce sont les enfants dans les familles où les parents ne travaillent pas qui souffrent particulièrement, et ce sont ceux-là qui généralement tombent en dessous du seuil de pauvreté. Ces familles ne sont pas vraiment aidées par le crédit d'impôt sur les revenus, contrairement à ceux qui vivent dans des familles de travailleurs pauvres. Donc, les plus pauvres ont souvent recours aux bons alimentaires. Madame Zen remarque d'ailleurs que toutes les familles indigentes aux États-Unis sont aujourd'hui plus vulnérables qu'elles ne l'étaient pendant la précédente crise, y compris les travailleurs pauvres, car ils reçoivent peu d'aide. Le rapport indique un autre recul tout aussi inquiétant, à savoir que la tranche d'âge des 15 à 24 ans est particulièrement touchée en matière d'éducation, d'emploi ou de formation. Les pays de l'Union européenne subissent la pire situation avec 7 500 000 jeunes qui se retrouvent sans travail et en dehors du système d'éducation.
Salle Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Nos remerciements à Mr. Holmes, l'ingénieur de service, réalisation de cette émission signée Lionel Gaïma, au micro Jean-Roger Billon. Nous nous quittons avec la musique, donc RDC Gassanji, Na Lingiyo, le titre, à qui le théâtre des sources à Fontenay aux Roses a donné carte blanche pour des soirées découvertes musicales du 4 novembre au 16 décembre.
Tindoliwa, 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 na. partie de la sagesse de nos pères. Le Dakar, un bon qui soyons fiers et forts d'Afrique, sortant de la nuit.
Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique avec Claire Morin-Gibou. D'ici là, retrouvez-nous sur Facebook.